invitation. La parole de notre Seigneur, et c'est vraiment toujours, c'est vrai que je me répète, mais c'est toujours une joie d'être là avec vous, de vous revoir, voilà, après ces semaines, ces mois, ces années maintenant, et franchement, je vois que le Seigneur est fidèle dans son action envers chacun de nous, et c'est vraiment une joie de voir, voilà, les visages là, et j'espère qu'ils vont rester et se multiplier, hein, voir d'autres visages encore. Donc merci pour la lecture de ces quelques versets. Donc nous allons voir aujourd'hui, mais quelle équipe ! Alors, je ne parle pas d'une équipe de foot, hein. Hier il y a une finale là hier. Donc quelle équipe ! Quelle équipe ! Alors je vais commencer par une petite illustration, si vous le permettez. Vous savez que j'aime bien les histoires, et bon, bah, c'est ma petite illustration de cet après-midi. Alors je vous amène en 2002, une équipe de baseball qui s'appelle les Athletics d'Oakland. Alors cette équipe-là, elle venait de perdre trois de ses meilleurs joueurs. Alors, vous savez que c'est pas déjà des grosses équipes baseball, si en plus on perd ses trois meilleurs équipiers. Vous pouvez imaginer la suite. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas les moyens d'engager des joueurs vedettes. Hein, on ne pouvait pas acheter des Messi, des Ronaldo, des Drogba. Hein, c'était au-dessus de leurs moyens. Alors son directeur dirigeant, il s'appelait donc Bill Bean. Alors il a pris les statistiques, lui, il a fait une autre approche, et des statistiques négligées, celles qu'on met jamais en avance, pour former un groupe de joueurs moins connus. Ah oui, ceux qui sont en bas de la liste. Ceux qui n'étaient aussi plus de la première jeunesse. Hein, quand on commence à avoir un certain âge, dans les milieux même footballistiques, on commence à être plus près de la retraite que de l'actif. Ou aussi que les autres équipes ne jugeaient plus assez ou plus bon du tout pour les repêcher. Voilà, pour blessures, pour mauvais résultats, ainsi de suite. Et alors lui, il a pris ces personnes-là, et il a construit une équipe vraiment improbable et incongrue, et il a remporté 20 matchs de suite, jusqu'à gagner le championnat de sa division, et en tout, cette équipe-là a gagné 103 matchs. Bel exemple, un défi à toutes les meilleures statistiques. C'est très à la mode dans les statistiques, dans toutes les entreprises, stats, voilà. Le matin, tu te lèves avec les stats, et le soir, tu te couches avec les stats. Pour revenir au verset de tout à l'heure, Jésus, se promenant au gré de ses déplacements, hein, on voit que Jésus, il marche le long de la mer, puis après on voit que Jésus sortit et il vit, il va constituer lui aussi son équipe. Et on va voir vraiment quelle équipe. Alors dans Luc 16, versets 13 à 16, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre. » Alors, bon, il y a une gymnastique un petit peu de prénoms qui change, et puis il y a les mêmes prénoms. Donc parfois, bon, il faut se poser et puis bien comprendre l'histoire. Alors Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, un autre Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariot, vous connaissez l'histoire, qui devint traître. Alors, pas vraiment des célébrités, quand on regarde bien. Pas vraiment des héros, des gens connus, loquaces, présentables, instruits. Il est dit ceci encore dans le choix de ses équipiers, dans Jean chapitre 1, versets 37 à 42, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils entendent Jésus parler et ils suivent Jésus. Ils entendent ce qui se passe, ce qui se dit. Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Mais que cherchez-vous » C'est vrai que quand quelqu'un, vous remarquez que quelqu'un vous suit, on se demande « Mais qu'est-ce qu'il veut, quoi ? Quel est le but de le fait qu'il me suive ?» Il répondit, « Maître, où demeures-tu ? » ?»« Venez, leur dit-il, et voyez. » Et ils allèrent, et ils virent, où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième. André, fils de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, appelé Pierre ». Jésus a changé son prénom. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de tout cela? Bon, c'est pour voir un petit peu de quelle manière, par quelles circonstances, Jésus a constitué son équipe. Alors, il est question de Matthieu, hein, Lévi, un collecteur d'impôts méprisé, un publicain, un juif au service de l'occupant romain, autant dire un traître. Puis il y avait Pierre, Jacques, Jean, André, de rudes pêcheurs. Il y avait Simon, hein, il est précisé Simon le Zélote. C'est un nationaliste zélé, hein, nationaliste. Hein, comme on ne va pas l'enregistrer, mais voilà, un nationaliste, quoi, un patriote acharné, prêt à défier l'autorité. Il y avait Thomas, vous connaissez Thomas ? Incrédule, Thomas. Et puis il y avait Judas l'Iscariot. Il s'appelait Jude aussi, hein, mais Jésus l'appelait Judas pour différencier les noms. Un fourbe qui trahira son maître par l'argent. Et puis il y avait Philippe. Lui était un proche de Jean-Baptiste et qui après a suivi Jésus. Donc vous voyez un petit peu les horizons, les univers. On ne peut pas réellement parler vraiment de gens érudits, instruits, dignes, voilà le mot que je cherchais, dignes, toi tu es digne de me suivre, aurait dit Jésus. Voilà, toi, les autres, et on voit bien que Jésus a fait le contraire. Il a fait comme l'exemple de tout à l'heure, il n'a pas pris la première liste où tous ceux qui veulent se mettre en avant, hein, le premier de la classe, le deuxième, le plus titré, tout ça. Non, il a commencé, on dirait, par la fin de la liste pour certains, et puis il a pris un peu. Voilà. Jésus choisit d'intégrer dans son équipe des personnes les moins populaires de la société, voire des personnes qui ont un statut, hein, comme Matthieu, de traître. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça surprend. Et il a traité tout le monde de la même manière, de la même égalité. Il a dit, toi, suis-moi. Vous qui me suivez, suivez-moi. Toi, Matthieu, suis-moi. Et il est dit que, laissant tout, il se leva et le suivit. Là, on voit le pouvoir, la captivation de Jésus. Quand Jésus appelle, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre fonction, quand Jésus vous appelle, vous levez, vous y allez. Dieu nous confond, nous perturbe, bouscule nos idées, nos valeurs, nos repères terriens, nos critères. On pourrait se dire, mais quelle équipe de bras cassés! Qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir faire avec ces gars-là? J'imagine, et sans dénigrer, que les pêcheurs de l'époque, je ne pense pas qu'ils aient passé beaucoup de temps à l'école. Et instruits, on lui disait, voilà, je vais te montrer comment on pêche et puis tu vas pêcher toute ta vie parce que tu vas nourrir ta famille et peut-être ton village, tu vas faire un petit peu de commerce, voilà, point. Mais on voit avec l'action du Saint-Esprit quelle vie va être transformée. Comment ils vont être transformés? Jésus va les équiper. Il ne va pas leur donner un nouveau filet de pêche, un bateau à moteur. Non, il va les équiper spirituellement pour, et comme il a dit après, vous serez pêcheurs d'hommes. Ils ne se sont pas posé de questions apparemment. Regardez, le verset 28 là, que nous avons lu dans Luc, et laissant tout, se leva, le suivit. Il n'a pas dit, oui, d'accord, Bon, je finis à 18h, je vais fermer ma caisse, je vais aller la rendre, je vais faire ma valise, je vais dire au revoir à tout mon village. Non. Il laisse, il se lève, il suit, il s'en va. Et puis on va un petit peu plus loin, parce que là c'est les 12, et puis après on va un peu plus loin dans Luc chapitre 10, versets 1 à 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein, il y a beaucoup de poissons, alors il faut envoyer beaucoup de pêcheurs avec des bons filets. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ah, ça commence à peut-être un petit peu moins drôle. « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, malheur à vous. Et là, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Certains sont entrés, d'autres les ont rejetés. Donc voyez un petit peu, donc dans les 70, on imagine aisément que c'était le même scénario que pour les autres. Et là, Jésus leur dit... Allez-y à moitié nu, allez prêcher la bonne parole. Ils n'ont pas eu peur. Ils y sont allés. Laissant tout, se levant, suivant Jésus. Quelle est la condition donc du disciple, hein, celui qui fait partie de cette équipe? Ben déjà, on voit qu'il renonce à lui-même. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il se charge de sa croix. Il renonce à lui-même. Et puis, il y a aussi un signe distinctif de cette équipe, des membres de cette équipe. À ceux-ci, tous ceux que vous allez rencontrer, connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on voit qu'il y a un facteur clé. Un facteur clé, c'est ces équipiers qui vont partir deux par deux. Les gens vont être troublés par l'amour fraternel qui les unit. Des gens aussi différents les uns les autres. Jésus n'a pas forcément mis les pêcheurs en les pêcheurs, hein, ceux qui vont à la pêche, bien sûr. Ensemble, Matthieu tout seul avec, je ne sais pas, Judas. Mais en voyant ces deux personnes, cette équipe, on voit on sent que quelque chose les unit. Elle est importante, cette équipe, aussi improbable soit-elle. Parce que Jésus ajoute cette chose, ne cherchez pas vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Non. Jésus prêche l'unité, le respect, l'encouragement. Imaginez une superbe équipe de foot avec les meilleurs joueurs. On fait une liste, on prend les meilleurs. On leur dit, tiens, demain, match, on y va. Ils vont tous jouer chacun de leur côté. Parce qu'ils n'auront pas appris à jouer ensemble. Parce qu'ils n'auront pas forcément cet esprit d'équipe. C'est quoi l'esprit d'équipe? C'est de faire des passes en avant, en arrière. Pourquoi? Pour marquer un but. Pour faire quoi cette équipe de Jésus? Pour sauver les âmes. Jésus leur dit bien, vous pouvez vous approcher, mais on peut aussi ne pas vous recevoir. Secouez la poussière, n'emmenez rien de ce qui peut vous tâcher. Dites simplement que le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous savez que Dieu s'est approché de vous. Après, quand tu le sais, tu prends ta responsabilité. Alors la question qui nous brûle les lèvres, enfin j'espère qu'elle vous brûle les lèvres, c'est vous qui suivez Jésus, si Jésus se retourne en disant « Que cherches-tu ? Où est-ce que tu vas Jésus ?» Et elle lui dit « Ben, suis-moi, viens dans mon équipe. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites réellement partie de l'équipe de Jésus ? Est-ce que vous jouez, entre guillemets, ensemble ? Bon, vous nous avez montré un trait de caractère de du groupe de jeunes, c'est que vous avez fait une activité extérieure ensemble. C'est bien. Vous avez montré que vous étiez capable de faire des choses ensemble, à développer, pour s'ouvrir aussi sur les autres, de voir un peu qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui a fait que vous êtes partis ensemble. Hier, j'ai vu, je vais encore revenir au foot, hein, mais il y a un joueur qui est arrivé avec un bandeau sur la tête et c'était marqué 100% Jésus. Tu l'as vu? Et il a bien, t'as vu, hein, il a bien attaché, il a vérifié qu'il restait bien en place. Hein. Voilà, un joueur n'a pas eu peur de montrer qu'il faisait partie de l'équipe de foot, mais qu'il faisait aussi partie de l'équipe de Jésus. 100% Jésus. Faut le faire, hein. Honnêtement. Et là, il n'y a personne qui a pu lui dire non, enlève ce bandeau. Mais il l'a fait. 100% Jésus. Moi, je fais 100% partie de l'équipe de Jésus. Alors, est-ce que vous faites partie de l'équipe de Jésus? Ou est-ce que vous vous dites non, je veux bien te suivre, Seigneur. Voilà, bon, j'ai mon passeport. Ça va, il n'est pas là le pianiste. J'ai mon passeport. Je peux partir, mais est-ce que je peux suivre Jésus? Est-ce que je veux suivre Jésus? Ses traces, son enseignement. Qu'est-ce que je pense quand il me dit « Va, annonce le royaume de Dieu ». Non, je suis un peu jeune là. C'est un peu tôt. Peut-être plus tard, bon, il sera peut-être temps. Quand j'aurai suivi quelques cultes, peut-être que j'aurai appris certaines choses. J'ai d'abord d'autres choses à faire, Seigneur. Excuse-moi, mais je peux pas tout laisser, là. Je veux bien me lever, mais je peux pas tout laisser te suivre comme ça. S'il te plaît, un peu de patience avec moi. Mais peut-être que je me sens pas aussi assez bon, entre guillemets, ou entre parenthèses, chrétien, pour pouvoir suivre Jésus. Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils étaient tous dignes de suivre Jésus? J'ai peut-être peur aussi. Il y a la peur. C'est légitime, il y a la peur. Peut-être aussi je suis trop timide. Ben non, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Demande à Pierre ce qu'il en a pensé après. Quand il a prêché devant les foules aussi, quand il a guéri les malades. Pierre, pêcheur de poissons. Vous pensez qu'il s'est entraîné à prêcher devant ces poissons? Ben après, il a prêché devant les foules. Est-ce que vous pensez que c'était dans sa nature d'aller prêcher devant les foules? d'aller défier les grands pontes juifs, d'aller défendre la foi, d'aller défendre le royaume de Dieu. Et Matthieu, le traître au service des Romains, hein, pensait qu'il n'avait pas plutôt envie de raser les murs, d'être celui qui n'est même pas sélectionné, quoi. Il fait partie de l'équipe, mais il est pas, on pense à lui, on sait qu'il est là, mais il n'est pas sélectionné. En lisant ma Bible avant ma conversion, j'ai vraiment et sincèrement senti que quelque chose avait changé en moi. Cette parole de Dieu, mais elle s'adressait à moi aussi. Et j'ai reçu une paix, une joie certaine, un sentiment profond d'amour, de tendresse. J'étais certain que Jésus m'aimait tel que j'étais. Et je pense qu'ils ont tous ressenti la même chose. Parce que pour tout laisser, se lever et suivre quelqu'un, il faut y croire. Il faut se sentir concerné. Dieu change même les timides en prédicateurs, en évangélistes. L'Esprit de Dieu a fait son œuvre en chacun de vous aussi. Et peu à peu, vous modèle. En tout cas, c'est ce qu'il faut ressentir. C'est ce qu'il faut se dire. Un jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais ce n'est pas une fin et un aboutissement en soi. C'est pas, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour et je me suis arrêté là, à planter. C'est bon, j'ai mon passeport maintenant. Je peux aller où je veux. Mais oui, mais où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que tu as la curiosité de vouloir y aller? Ou est-ce que ça ne t'intéresse pas? Moi, je me souviens, timide comme j'étais, alors déjà, j'étais pas grand, mais enfin, ça, je pense que vous avez dû le constater déjà depuis toutes ces années. Donc, pas grand et timide, c'est pas, on parle pas avec des atouts. Hein? Alors, je me souviens de cette réflexion d'un acteur américain, Sammy Davis Jr., qui lui disait, quand vous êtes noir, alors petit, noir, juif et moche, c'est terrible. Ben, il a quand même été un sacré acteur. Hein? Donc un jour, le responsable, je crois que c'est toi qui es le responsable du groupe de jeunes. Hein? Je sais pas, tu prends celui qui parle jamais, puis tu lui dis, bon, la semaine prochaine, c'est toi qui prépare l'étude biblique. Je compte sur toi, donc la semaine prochaine, tu vas nous apporter quelque chose. Waouh! Quand il m'a demandé ça, j'ai fait, la Bible... Alors là, j'ai ouvert ma Bible dans Luc, je suis déjà à 1027 pages. Je dis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire déjà? Déjà comprendre, et puis expliquer, exprimer. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai passé une semaine atroce. Et puis j'ai lu ces versets dans l'Apocalypse. Et vous savez de quel verset je veux parler? Froid? Bouillant? Ou tiède. Alors, tu es sélectionné dans l'équipe, mais est-ce que tu fais partie de l'équipe sur le terrain? Est-ce que tu fais partie de l'équipe sur le banc de touche? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont sélectionnés mais pas retenus? Ou ceux qui pourraient être sélectionnés? Pas pareil. Le statut n'est pas le même. Et là, j'ai dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut que je partage. Si on est chrétien, on ne peut pas être froid, ni tiède. On est bouillant. On est zélé. C'est comme l'expérience du verre d'eau. Un jour, on reçoit un pasteur et il nous montre un verre d'eau. Il dit, comment vous voyez ce verre d'eau? Comment tu vois ce verre d'eau? Je mets de l'eau jusque-là, moitié. Vois comment ce verre d'eau? Tu le vois à moitié plein? Ou à moitié vide. On est toujours à la moitié, hein? Plein ou vide? Ah. Qui a l'assurance de son salut? Qui est l'assurance de son salut? Est-ce que c'est un espoir ou une espérance? Sur quoi me baser? Moi, en tant qu'équipier, sur qui je me base? Est-ce que j'ai l'assurance, j'ai l'espérance que on peut gagner le match ou on y va pour perdre? Si l'entraîneur vous dit, bon, allez, on s'est entraîné, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on a un adversaire, peut-être qu'il est plus fort que nous, ou là, il a fait des bons résultats et tout. Puis vous avez des... Voilà. Donc, bonjour l'entrée en matière. L'espoir, c'est qu'un sentiment humain précaire. Et l'espoir que peut-être qu'un jour... C'est pas de l'espérance, l'espoir. Nous, chrétiens, nous avons l'espérance. Donc le secret, c'est naître de nouveau déjà. Il faut naître de nouveau pour basculer dans cette espérance. Basculer dans cette équipe, être sélectionné dans l'équipe de Dieu. Là, Jésus a rencontré un homme qui s'appelait Nicodème. Donc Nicodème, un chef des Juifs. Alors Jésus lui dit, voilà, il faut naître de nouveau, tout ça. Alors Nicodème, il se dit, waouh, naître de nouveau, il faudrait que je retourne dans le ventre de ma mère. Bon, c'est juste pas possible, hein. Donc lui, il voyait ça, mais physiquement parlant, bah oui, naître, c'est le même mot. Jésus dit non, naître d'esprit. Naître d'esprit. Il n'est pas question de renaissance physique. Là, nos équipiers là, de Jésus, là, cette équipe bancale, Jésus les a fait renaître. Il les a tous pris à des niveaux, des stades différents, une intelligence différente, une connaissance différente. Il les a tous mis à plat, spirituellement parlant, et il les a construits. Il les a construits. Physiquement, ils étaient tous différents. Physiquement, ils avaient tous des activités différentes. Mais Jésus, spirituellement, les a construits. Nous sommes tous et toutes concernés par cette équipe. Et la promesse de Dieu sur laquelle il faut qu'on s'appuie, c'est « Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai ». Quand Jésus vous a dit « Tu vas faire partie de mon équipe », oui Seigneur, moi je fais partie de ton équipe, mais moi je veux m'entraîner. Je ne veux pas rester sur le banc de touche, ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez, vous sélectionnez un joueur et vous laissez tout le temps sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Je ne sers à rien. Et puis si je ne m'entraîne pas, j'apprends rien. C'est bien beau de regarder un match de foot, d'avoir mis ses Nike, ses Adidas, d'avoir mis son short, son maillot et tout ça. Et puis on est devant la télévision, on ne s'entraîne pas. Demain on dit, tiens, tu vas faire partie de l'équipe sur le terrain, tu ne vas pas savoir quoi faire. La pratique ne sera pas la même. Donc, mes bien-aimés, faisons partie de l'équipe, aussi improbable soit-elle, hein, de l'équipe de Jésus, mais pour gagner le match. Gagner le match, c'est pas marquer des buts. Dans une cage, c'est d'aller chercher des points pour le royaume de Dieu. C'est de montrer 100% Jésus. 100% Jésus. Dans une équipe, il n'y a personne qui joue dans son propre camp. On a l'esprit d'équipe. Et l'Église, c'est une équipe aussi. C'est une équipe de foot. C'est une équipe de chrétiens. C'est une équipe de vaillants. Nous sommes tous appelés à servir Dieu dans différents domaines, de différentes manières. Mais nous devons avoir l'esprit de complémentarité, pas l'esprit de rivalité, comme parfois ça pourrait arriver. Les yeux fixés sur notre entraîneur. Jésus, c'est le meilleur des entraîneurs. Il te prend, tu ne sais rien faire, et après tu es au top. Est-ce que ce n'est pas ça ce qui fait vibrer le chrétien? De savoir qu'on n'est pas des végétaux, au stade de graines, mais on n'a pas été planté, on ne donne rien. Ce qui fait le... Ce qui fait la joie du cultivateur, c'est de voir que la graine produit du fruit. Sinon, ça ne sert à rien. Elle produit du fruit. Alors, une équipe de chrétiens, une équipe d'engagés, elle porte son fruit. Elle porte son fruit. Et ça se voit. Voilà, mes bien-aimés, je voudrais vous encourager vraiment à faire partie de l'équipe active de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.